Et merde, je vous dis tout. La marque Adam et Ève, sensuelle et amusante, est mon sponsor du moment. Et je vais paraître kitsch parce que j'ai un mec et j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. En fait, je vois un peu ça comme l'occasion de se la jouer romantique, dentelle avec des fleurs, lingerie, me faire jouir. Adam et Ève m'a offert le parfait combo pour ça. Une robe ouverte avec longue fente au niveau des jambes, en lingerie noire transparente, idéal pour se sentir désiré, avec un vibromasseur parfait pour les couples. À stimulation interne et externe, peut être contrôlé dans le monde entier avec l'application WeConnect. Tu peux en profiter toi aussi grâce à mon code promo VALCOLETTE, comme Valentin et Colette, en très diminué, VALCOLETTE. Ça te donne 15€ de réduction des 60€ d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite, bisous!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut, c'est Colette. Et je suis avec, aujourd'hui, une personne très chouette que vous allez adorer rencontrer, qui s'appelle Margot, Margot Théroux, sexologue clinicienne qui lutte contre la violence financière, économique plutôt.
Les deux.
Ok. Au sein du couple. Et avec qui, déjà, on a déjà fait un super épisode vraiment, vraiment, vraiment passionnant que je vous ai mis le lien dans la description. Je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Moi, j'ai adoré ce moment avec toi. Et du coup, je suis trop contente de t'avoir à nouveau parce que on va toujours parler de sexe et d'argent, mais d'un point de vue, disons, plutôt professionnel, dans le sens relation sexuelle tarifée.
Bah, merci pour l'invitation, Colette. Très heureuse de te retrouver et... un peu plus nerveuse que pour le premier épisode, pour le coup, parce que c'est un sujet qui est très tabou et étant féministe, qui divise pas mal. Donc, hâte de cette conversation et de cette réflexion à deux voix.
Carrément. C'est sûr que même les féministes, ne sont pas d'accord entre elles. Et c'est chouette qu'on en parle. Je suis contente de mettre de la lumière sur les TDS. Hashtag travailleuse du sexe. Margot, je suis trop contente de te voir. Déjà, c'est trop cool. Y a un sujet, ça c'est, on va parler là aujourd'hui en fait d'un petit épisode d'un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé toutes les deux encore avant, mais c'est un sujet qui me tient à cœur dans le sens où on va parler des travailleuses du sexe. Et les travailleuses du sexe, c'est un énorme sujet tabou parce que justement, ça mélange quoi? Ça mélange la sexualité, ça mélange... l'argent, et ça mélange aussi du coup, quelque part, le rapport de pouvoir entre une cliente et, un client, plus généralement, et la prostituée, et du coup, à quel point ça peut être mis dans l'autre sens. Moi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui viennent me parler par le podcast, justement, qui sont des personnes... c'est pas la grande majorité de mes auditeurs, ni de mes auditrices, mais c'est vrai que ça arrive de temps en temps où certaines personnes se confient à moi et m'avouent que parfois, elles aiment bien avoir des relations tarifées parce qu'au moins, ça donne un cadre aussi à leur intimité. C'est tout d'un coup, ok, parce que je te paye, on va pouvoir avoir un rapport sexualisé et quelque part, ça simplifie aussi le process. Il y a moins d'ambiguïté. Pourquoi je te dis ça? Parce que... quelque part, en fait, quand tu fais du podcast érotique, tu peux avoir parfois ces réflexions et te dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais exactement? Qui suis-je? Est-ce que je me mets dans cette catégorie de travailleuse du sexe ou pas? C'est des réflexions que j'ai pu avoir, chose que je ne considère absolument pas, parce que travailleuse du sexe, finalement, c'est pratiquer un acte sexuel.
Ouais.
Moi, c'est vraiment pas ce que je fais, c'est des histoires, c'est des échanges. Là, comme on fait, on discute.
voilà, ça, c'est toujours par le biais, en fait, finalement, du son et du micro, et je ne rencontre personne, donc c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que dans ma progression en tant que podcasteuse, en tant qu'artiste, en fait, qui parle d'érotisme et qui pratique l'érotisme, bah, c'est une question qui se pose. Par exemple, moi, tout ce que je fais, c'est anonyme.
Ouais.
Bah, y a plein de gens qui m'ont déjà demandé, bah tiens, pourquoi tu montes pas ton visage, est-ce qu'on pourrait le voir, et peut-être que ces personnes-là seraient prêtes à payer aussi pour voir mon visage. Donc là, est-ce que ça rentre dans le cadre de travailleuse du sexe, parce que on rentre un peu dans ce rapport de cam girl, OnlyFans, etc., etc. On m'a déjà demandé, mais tiens, pourquoi tu n'as pas OnlyFans? Donc il y a peu cette frontière de, bah tiens, à quel point est-ce que tu es où est-ce que s'arrête l'artiste? Où est-ce que commence le service à la personne? Et du coup, ça m'a amené en fait à découvrir un peu plus aussi, bah ok, que font les travailleuses du sexe? Donc j'ai commencé à me renseigner un peu. Je suis pas du tout à la fin de mes recherches parce que c'est un éventail qui est extrêmement large. En fait, travailleuse du sexe, ça englobe énormément de métiers au final. Et c'est super intéressant de voir le rapport qu'elles ont avec leurs clients ou leurs clientes. Il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui ont voir les travailleuses du sexe. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est le cas. Notamment quand c'est pour des pratiques, quand c'est des pratiques spécialisées, comme la soumission, tu vois, du BDSM, des choses comme ça, où c'est pas forcément évident de trouver des bonnes personnes qui vont t'apprendre certaines pratiques, certaines choses. Bah, tout d'un coup, une domina professionnelle qui est payée pour ça va pouvoir te montrer des choses. Donc voilà, une domina, typiquement, ça rentre dans le cadre de la travailleuse du sexe, alors que...
Ah bon ? Je savais pas.
Alors qu'en fait, finalement, t'as plein de dominas qui font pas de sexualité.
Bah, d'ailleurs, très souvent, il n'y a pas de sexualité dans le milieu BDSM quand t'es domina, ouais.
Donc...
La frontière est assez floue.
Bah, tu vois, mais cam girl, c'est pareil, finalement, t'as pas de sexualité avec tes clients, mais on met ça quand même dans la catégorie de travailleuse du sexe.
Ok, je vois.
Donc finalement, pourquoi est-ce qu'une cam girl est plus une TDS que... Enfin, voilà, ça c'est vrai que c'est des questions auxquelles j'ai pas encore tout à fait les réponses moi-même, parce que je suis en réflexion là-dessus, et puis surtout, à un moment donné, pour moi, quelle est la différence? Ça, si j'ai un peu une question à te poser sur laquelle j'aimerais un peu qu'on débatte, c'est quelle est la différence finalement entre une travailleuse du sexe et une coiffeuse? Parce que finalement, la coiffeuse, tu vas chez elle, tu lui demandes une coupe pour tes cheveux, elle va prendre soin de toi, elle va te conseiller sur ce qui te va le mieux, elle va te couper les cheveux, elle te rend un service et tu la payes pour ce service et t'es bien content qu'elle soit là. Pourquoi est-ce que la travailleuse du sexe n'a pas une boutique? Ça, c'est vraiment des questionnements à moi. Hein. Mais vraiment, je me dis, bah, pourquoi est-ce que travailleuse du sexe n'a pas une boutique, n'a pas son cabinet sur rue, où finalement, bah, si tu as besoin de te faire du bien, bah, tu vas la voir. Et puis, quel est le problème? Finalement, tu la payes pour un tel service, elle s'occupe de toi, tu ressors de là, tu as besoin de ça. Pourquoi je pense à ça? Parce que plus du coup, les travailleuses du sexe, j'apprends à les connaître, j'en rencontre ou je lis leurs ouvrages. Ouais. Et plus on se rend compte que c'est un réel service à la personne. Il y a quand même énormément de personnes qui sont seules, dont on ne parle pas assez, dont on ne met pas la lumière. Et que sans les travailleuses du sexe, ce seraient des personnes qui seraient très déprimées, qui peut-être commettraient des actes graves sur elle ou eux. Je pense notamment par exemple au suicide ou d'autres choses. Enfin voilà, c'est et finalement, avec du recul, moi je trouve que travailleuse du sexe, et c'est vraiment mon avis perso, je trouve que c'est un métier noble. Mm-hmm. Parce que prendre soin à ce point-là de la personne avec qui l'on est, et justement lui partager sa vulnérabilité et accueillir la sienne, c'est quand même pas évident, et c'est un vrai travail de finalement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un travail de psy?
Ah là là, vraie question.
Quelle intro. Désolée, là, c'est vrai que je t'ai fait un boulevard.
Non, pas du tout. Alors, pour être totalement honnête envers toi et envers les auditeurs et les auditrices, c'est une question sur laquelle, là où sur les couples et l'argent, j'ai beaucoup d'informations, etc. Je pense que là, on sera plus sur une réflexion. En ce qui me concerne, parce que je n'ai pas d'avis, je n'ai pas de données statistiques. La dimension thérapeutique des travailleurs du sexe, oui, d'ailleurs, en regardant rapidement, il faut savoir qu'il y a un syndicat qui s'appelle le STRAS. D'ailleurs, j'avais une personne de ce syndicat qui était venue dans mes études en santé sexuelle nous présenter le syndicat et leurs revendications pour effectivement la reconnaissance du travail sexuel et contre la stigmatisation des métiers. tout en eux, en s'opposant bien évidemment de leur côté, à l'exploitation des êtres humains et le proxénétisme et toutes les formes d'esclavage. Donc il y a vraiment un syndicat en France, donc effectivement, est-ce qu'il y a s'il y a un syndicat, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui exercent le métier. Est-ce qu'il y a une vocation thérapeutique? J'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que on en parlait dans le podcast qu'on a fait la dernière fois sur les couples et l'argent, où tu me demandais quelqu'un à te recommander. Et je t'ai donné le nom de mon ami et confrère Alexis Gana, qui est spécialisé sur sexualité et handicap.
Et, oui, ça typiquement.
Bah oui.
Oui, complètement.
Et les assistants sexuels qui sont autorisés, comme on disait, en Suisse ou en Espagne, ne sont pas autorisés en France. Il y en a, mais ils exercent dans l'illégalité. Et il y a une vraie... les assistants sexuels, donc pour les personnes qui ne savent pas, c'est vraiment des personnes qui vont accompagner des personnes en situation de handicap par tout un tas de pratiques, en accord, bien sûr, entre le professionnel et la personne. Et là, il y a une vraie vocation thérapeutique aussi. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a 6 millions de personnes en situation de handicap en France, et on leur a interdit une sexualité, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans l'imaginaire collectif. Et effectivement, la santé sexuelle fait partie de la santé, a été définie clairement par l'UNESCO.
Il y a un documentaire magnifique, je n'ai plus le nom en tête, mais je vais le retrouver et je mettrai le lien dans la description. Mmh. Il y a un documentaire vraiment magnifique qui parle de sexualité et d'handicap. Et en fait, il y a une scène avec cette femme en fait, qui est atrophiée, qui ne peut pas se toucher elle-même.
Okay.
Dans le sens où elle ne s'est même jamais caressée les cheveux. Ouais. Elle ne sait pas ce que c'est parce qu'elle n'a pas la mobilité de pouvoir se toucher. Et donc, il y a cette séquence où elle est avec une assistante sexuelle qui va juste prendre sa main et qui, au fur et à mesure, va l'aider à caresser son corps. Doucement, ça commence, elle se caresse les cheveux. Et rien que ça, déjà, elle a une émotion très forte. Elle dit « Waouh, mais c'est ça, quand je me caresse, c'est ça que je ressens. » Et c'est vraiment très, très fort. Et donc, ça commence très doucement comme ça, jusqu'à d'autres parties du corps, le ventre, l'entrecuisse, et à la fin, du coup, elle l'aide à se masturber. Et déjà, il y a une extrêmement belle complicité qui s'installe entre les deux, et on voit aussi toute l'importance de la connexion à soi. Je veux dire, déjà, on en parle, que ce soit pour des personnes tout à fait valides, et là, du coup, c'est un peu de voir quelqu'un qui ne l'a jamais fait, et qui vit cette expérience pour la première fois, tu te rends compte à quel point c'est vraiment important de le faire, quoi. Si je veux faire un peu l'avocat du diable...
Allez.
Il y a aussi quand même... Là où je voulais en venir, c'est que... Il y a quand même un souci aujourd'hui, je trouve. C'est que... Par exemple, un peu n'importe qui peut être camgirl. Mm-hmm. On est un peu dans cette nouvelle ère où, en fait, maintenant, dès que t'as un petit Instagram où t'es mignonne, t'es machin, tu peux assez facilement switcher, te créer un compte OnlyFans ou je ne sais pas sur quelle plateforme, mettre des nudes de toi et demander à ce qu'on les paye. Alors, à la fois, je trouve ça génial parce que c'est quand même hyper empouvoirant pour une nana de dire, ouais, en fait, mon corps, il est pas gratuit. Si tu veux le voir, c'est payant. Parce qu'il y a aussi plein de meufs qui se font avoir parce qu'elles veulent plaire, parce que je sais pas quoi. Et du coup, elles envoient plein de nudes. Et derrière, déjà, tu sais pas vraiment ce qu'il arrive avec les nudes. Et puis surtout, les hommes, ils ont cru que, tiens, je vois une meuf à poil, c'est facile. Mmh. Donc à la fois, je trouve ça hyper empouvoirant. Je me dis, ah putain, c'est cool parce que les meufs, elles se donnent une valeur en faisant ça. Et de l'autre côté, je vois aussi des hommes qui s'attachent de manière affective à une image, à des relations asociales et qui en souffrent beaucoup parce qu'ils pensent tout d'un coup, parce que voilà, c'est des personnes, il peut y avoir des personnes qui ont certaines douleurs, qui ont un sentiment de solitude et du coup qui vont croire que qu'avec lui ou elle ça se passe autrement, qu'il y a un peu plus. Et on voit aussi de l'abus
beaucoup.
Ouais, de la part de ces nanas-là qui vont te dire « mais si, il n'y a que toi, ah mon chat ».
Ah, tu pensais à cet abus-là, ok.
Ah, oui, tu pensais à quel abus, toi ?
Non, on en parlera de l'abus de ces plateformes.
Ah oui, on peut en parler, ouais, carrément. Donc, Où est-ce que je veux en venir? C'est que j'ai l'impression que, en fait, finalement, parce que c'est flou, du coup, ça devient le bordel. Et c'est pour ça que, moi, je crois pertinemment en cette vitrine sur rue, en fait. Parce que je me dis, bah, le jour où c'est plus le bordel, parce que c'est légal, parce que c'est normé, bah, tout d'un coup, bah, on sait que, ok, tu viens là pour ça, et ça n'empêche pas que tu peux bien t'entendre avec la personne, qu'il peut y avoir de la sexualité, mais ça veut pas forcément dire qu'il y a de l'affect et faire vraiment la différence.
C'est le bordel, littéralement.
Qu'est-ce que t'en penses de tout ce que je t'ai dit?
Alors, moi, je réfléchis en même temps que je te parle. Peut-être que mon avis changera au fur et à mesure des années. Donc, attention, on est vraiment sur une réflexion, hein, encore une fois. Moi, ce que je dénonce, c'est pas tant le fait d'utiliser son corps à des fins commerciales, c'est les institutions qu'il y a autour. C'est-à-dire que, dans quel contexte? En fait, il faut que les choses soient lisses, soient claires, soient limpides. Il faut savoir qu'il y a eu un très bon reportage qui est sorti sur Netflix la semaine dernière, sur Pornhub. Et 80...
Alors, très bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec
toi. Ah ouais,
mais vas-y, excuse-moi, je ne voulais pas te couper la parole.
Enfin, moi, je l'ai trouvé brutal, je n'ai même pas pu finir, c'était trop violent pour moi. Mais je trouve que... en fait, 90% des vidéos qu'il y a sur ce genre de site, c'est des vidéos qui ne sont pas consenties, en fait. Il y a des personnes qui se retrouvent à faire une vidéo pour un délire, un jeu sexuel avec leur partenaire. Encore une fois, on fait ce qu'on veut. Mais qui retrouvent ces vidéos sur Internet. Il y a des femmes qui sont violées, qui se retrouvent dessus. Une des catégories la plus cherchée sur Pornhub ou YouPorn, ce même délire, c'est teen.
Oui.
Il y a une pédocriminalité qui est normée. Et c'est ça que je trouve ça très dangereux. Et pareil pour les femmes qui se mettent en avant sur Instagram ou qui finissent ensuite aller sur OnlyFans. C'est toujours, moi, cette question de la vie. En fait, en tant que sexologue, je ne peux que m'interroger constamment sur la question du consentement.
Ah bah, pour le coup, OnlyFans, c'est méga consentement parce que les femmes, elles y vont elles-mêmes, oui. Et c'est elles qui choisissent. Enfin, au contraire, je trouve qu'OnlyFans, c'est vraiment une liberté économique.
Oui, quand elles le font toutes seules, ouais. Mais par contre, tu vois, dans les sites porno tels qu'ils soient, la question du consentement, elle n'y est pas.
Ouais.
Pas tout le temps.
Bah, en fait, la pornographie, il y a deux choses. C'est que, en fait, il y a en effet les revenge porn, ou enfin toutes les vidéos non consenties qui sont publiées là, et ça, c'est terrible. Et là, en effet, il n'y a pas de consentement. Il y a aussi toutes celles, d'ailleurs, dont on cite dans le documentaire, dont on parle, c'est toutes les modèles qui se sont mises là par leurs propres moyens, et elles, du coup, c'est du consentement, c'est du travail, etc. La pornographie, c'est un... J'ai pas envie qu'on parle de pornographie, je pense, aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un autre sujet.
Ouais.
Dans le sens où... bah oui, en effet, là, si on parle pas... En fait, pour moi, si on parle du travail du sexe, forcément, il y a du consentement. Et c'est intéressant, en fait, d'ailleurs, qu'il y ait ce lapsus dans cette conversation, parce que, justement, pour moi, si t'es travailleuse du sexe, la plupart... Alors oui, alors, c'est intéressant, en fait. Excuse-moi, pardon, je vais aller au bout de ma réflexion.
Ouais.
Parce que... c'est vrai que moi, quand je parle de travail du sexe avec boutique sur rue, etc., je pense à celles qui ont choisi ce métier,
ouais.
Et à celles qui aiment faire ça. Et,
ouais.
Et parce que c'est encore très tabou d'avouer que bah, y a des femmes qui aiment coiffer, faire du service à la personne avec la coiffure, mais comme il y a des femmes qui aiment donner du plaisir sexuel, et ça leur fait plaisir, et elles aiment leur métier, et elles aiment leur métier... pas seulement pour l'aspect sexuel, mais vraiment pour le rapport humain et le bien-être. Oh, pardon, je tape dans le micro. Et pour le bien-être intime qu'elles offrent à leurs clients. C'est vrai qu'il y a un autre pan de travail du sexe qui est aussi toute la criminalité. Et c'est là où, justement, dès que c'est plus normé, c'est plus régularisé, c'est le bordel, comme on dit. Et ça, oui, ça, c'est, je pense que c'est là où tu voulais en venir, en fait, quelque part, non?
Ouais, bien sûr. Et puis même moi, je vois en consultation. Alors, c'est intéressant parce que du coup, est-ce que les acteurs et les actrices porno, c'est des travailleurs du sexe?
Ah bah oui.
Oui. Donc, et en fait, moi, je vois le prisme des personnes que j'ai en consultation. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'hommes qui ont... Des femmes aussi, mais là, en l'occurrence, je pense à des hommes qui ont été des grands consommateurs de films porno. Et moi, les conséquences sur leur sexualité sont dramatiques. Dramatiques, pourquoi? Parce qu'ils tombent dans l'angoisse de la performance. qu'il y en a certains qui ont des difficultés à éjaculer, des dysfonctions érectiles, des difficultés à bander, pour parler vulgairement. Et qu'en fait, il y a leur... tu vois, c'est comme si quand tu mets un enfant de 3 ans devant la télé, en fait, son imaginaire, il est littéralement bouffé par les images que tu lui envoies. Et les ados, quand ils rentrent dans la sexualité, parce qu'on n'a pas d'autres... aujourd'hui, enfin bref, on ne va pas rentrer dans le débat, mais je déplore l'absence d'éducation sexuelle à proprement parler. En fait, c'est soit on leur dit « Putain, tu t'en vas en l'air, tu chopes le DAS, enfin le VIH, des MST, t'es nana, tu tombes enceinte » ou, enfin, en fait, t'as le choix entre le couteau, le gaz et la corde, quoi. Donc en fait, ils vont chercher l'information où est-ce qu'elle est dans les films porno. Et le problème, c'est que 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, moi, je les ai en consultation parce qu'en fait, ça a totalement biaisé leur sexualité.
Oui, tout à fait.
Et tu vois, ça, c'est le regard, effectivement...
Et ils viennent écouter Colette se confesse pour se recréer un imaginaire.
Mais tu sais que moi, je conseille les podcasts érotiques. Je conseille même les films porno, ceux d'Erika Lust, parce que c'est des pornos éthiques féministes et dont je sais les conditions des travailleuses et travailleurs du sexe ont été respectées. Mais bien sûr, je conseille, il y en a en fait, je leur fais faire un exercice sur les 5 sens, et il y en a, ils se rendent compte qu'ils sont auditifs, et donc je leur dis, bah, si vous êtes auditifs, écoutez effectivement des podcasts comme le tien ou comme d'autres, pour stimuler l'imaginaire collectif, pour stimuler l'imaginaire érotique, pardon, pour revenir sur ces images qui ont été marquées au fer rouge dans leur imaginaire érotique. Bref, j'ai fait une digression.
Bah non, mais c'est intéressant, c'est chouette.
Et c'est juste qu'effectivement, indépendamment de mon avis, parce qu'en soi on s'en fout, c'est juste que je vois les conséquences de cette culture du porno accessible. Et puis même chez des femmes que j'accompagne, c'est cette culture de l'image et du corps et de la comment dire du côté de l'intimité qui ne l'est plus sur les réseaux sociaux à se mettre en avant. Ça peut créer chez certaines des troubles dans leur sexualité, des troubles du désir en fait, parce qu'elles se sont retrouvées à faire des choses qu'elles ne voulaient pas faire, choses qui se sont retrouvées parfois effectivement sur le web.
Ou à tellement objectifier ton corps, à te dire bon, bah, ceci n'est pas vraiment mon corps, ça devient bon.
Et en fait, tu rentres après dans une forme de tu rentres dans une dissociation en fait. Ta tête se coupe de ton corps, et quand tu coupes la tête du corps, le désir vient plus quoi.
Ben c'est intéressant parce que je parlais de ça avec une de mes invitées, justement, Léléo, qui elle...
oui.
Ouais. Bah ouais, donc Léléo qui fait de la voix érotique comme moi.
Tu as vu son visage aussi.
J'ai vu son visage aussi, on s'est rencontrés, on a toutes
les deux vu vos visages.
Exactement. Et qui fait aussi un peu de cam de temps en temps. Et donc elle avait encore plus ce rapport à l'image que moi. Donc on a pu parler de ça. Parce que finalement, moi-même, même sans vous montrer mon visage ou mon corps, j'ai quand même eu ce truc de dissociation. J'ai eu cette période-là aussi. Okay.
Et elle aussi, elle l'a eu du coup ?
Ouais. Okay. Donc c'est intéressant. J'en ai pu
discuter de ça. Et comment elle l'a géré et comment vous l'avez géré ?
En prenant conscience déjà.
Ouais.
Ouais, ça a l'air con dit comme ça, mais
non, c'est vrai.
En prenant conscience et en se rendant compte qu'on était peut-être dans une phase où on avait besoin de sécurité à ce moment-là, et du coup on est parti chercher de la sécurité chez nos partenaires, chez nos partenaires de jeu. On est parti exprimer, ok, en ce moment, je suis dans un truc moins d'audace, moins de foufou, mais d'abord j'ai besoin de sécurité, et ensuite du coup je peux redevenir une bonne petite salope comme jamais être, mais d'abord j'ai besoin de sécurité. Et ça demande d'être hyper honnête, en fait, envers soi-même, envers ses besoins, envers...
Et humble aussi vis-à-vis de soi-même, ouais.
Ouais, complètement, carrément. Mais donc, comme quoi, tu vois, dès qu'on part sur un rapport au corps, finalement, on a déjà ce souci-là avant même d'être travailleuse du sexe. Je pense, par exemple, je pense que les danseurs ou les comédiens ou les comédiennes ont ce même problème, finalement.
Ouais, et puis c'est très érotique, la danse aussi.
Ouais, mais même, est-ce que forcément parce que c'est érotique, enfin, je dirais parce que... Tout d'un coup, ton corps est un outil de travail.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien sûr, il y a la
différence. Tu vois, circassien, enfin, on peut tous les faire, mais...
Oui, ils ont tous effectivement des... Il y avait une femme de ma promotion en sexo qui avait fait un mémoire sur la danse, comme pouvant remobiliser le couple, mais pas en tant que chose érotique, enfin, non plus en danser un tango, mais effectivement, le rapport au corps qui vient le remettre en mouvement, etc. Donc ça, c'est... j'imagine, de toute façon, je pense que les danseurs, quand ils sont... sur scène, ils sont dans un espèce d'état de transe en fait, où effectivement
dans le flow,
dans le flow, ils sont dedans et en fait ils font qu'un, ils sont, enfin leur énergie est vitale n'est dédiée qu'à ça quoi, qu'à leur mouvement et qu'à l'exercice et qu'à leur pratique.
T'as des patients qui viennent te voir parce qu'ils ont mal vécu une relation sexuelle tarifée?
Alors indirectement oui. En fait j'ai des hommes qui manquent de confiance en eux, n'ont jamais vraiment été en couple avec des femmes ou des hommes, mais là ils sont hétérosexuels, et qui du coup ont eu des relations tarifées. Mais en fait, ce qui vient les angoisser encore plus, parce qu'ils ont peur de ne pas savoir faire le jour où... ils ont bien sûr eu des relations non tarifées entre-temps, mais vu que ça représentait une grande part de leur vie érotique, c'est quelque chose qui les angoisse. Est-ce que je saurais faire? Est-ce que... Enfin, tu vois, on retombe dans cette angoisse de la performance.
Parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir appris, du coup, avec...
En fait, vu que c'est des hommes qui, à la base, manquent de confiance en eux, forcément, et donc, pas tous, hein, mais là, je te parle vraiment que de ma pratique, donc forcément, après, quand ils vont voir des relations tarifées, ils se disent, mais ça ressemble à quoi dans la vraie vie?
Et ils pensent que c'est pas la même chose.
Que c'est pas la même chose, que c'est différent, et puis, effectivement, comme tu l'as dit, vu qu'on est sur des professionnels, elles savent faire, elles savent trouver le plaisir, elles connaissent très bien leur corps. Donc, tu vois, il y a se dire, mais comment je fais quand je suis face à une femme, entre guillemets, ou un homme moins expérimenté.
Et donc, ils viennent te voir pourquoi?
Parce qu'ils aimeraient bien, parce qu'ils ont peur, en fait, du jour où ils auront des relations non tarifées. C'est marrant, hein? Enfin, c'est marrant. Abus de langage, mais...
Ils veulent être rassurés qu'on leur dise que c'est vraiment la même chose.
Oui, voilà, c'est ça. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin aussi d'être déculpabilisés. Tu vois, c'est-à-dire que moi, en tant que sexologue, je leur dis je suis pas curée, je ne juge pas.
Et t'es peut-être la seule personne à qui ils ont avoué.
Ouais, bien sûr. Et voilà, c'est tellement stigmatisé, les travailleuses du sexe ou les travailleurs du sexe, que de suite, on passe pour un monstre ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, il y a des dérives, et moi, malheureusement, je vois plus les dérives en consultation. Mais j'imagine, comme tu l'as dit très, très justement, qu'il y a des personnes qui font ça. Et preuve en est, il y a le STRAS, hein, le syndicat des travailleurs du sexe, qui milite pour cette espèce d'arrêter de... Comment on appelle ça, là? Tu sais, quand tu portes un regard de pitié sur les autres, tu vois...
Oui.
Y a un mot, bon bref, peu importe. Et en fait, effectivement, ils ont besoin d'avoir un espace pour les... Tu sais, en sexologie, on déculpabilise beaucoup.
Oui.
On rassure beaucoup, on déculpabilise, on déconstruit, etc. Enfin bon, bref, parenthèse, mais moi, il y a des personnes qui trompent leur partenaire et ils ont personne et ils ont l'impression qu'ils ont fait la pire bêtise de la Terre. Moi, je leur dis encore une fois, je leur dis, je ne suis pas curée. Et la notion de bien et de mal, à partir du moment où il n'y a pas eu d'atteinte sur une personne mineure ou majeure ou sur un animal, là, ça n'existe pas chez moi.
Non, mais c'est intéressant parce que du coup, je fais des accompagnements aussi, bâton col coco, et j'ai pas mal de personnes, j'ai vraiment des profils très différents.
Ouais.
C'est vrai qu'un des profils que j'ai, c'est ce genre de personnes-là, justement, qui ont eu que des relations sexuelles tarifées et en fait, qui n'ont jamais osé en parler à personne. Et je suis la seule personne à qui ils arrivent à confier ça. Parce qu'à la fois, je suis pas la psy, c'est pas très... Enfin, mes séances sont pas sur un ton très sérieux. C'est justement, on se marre, un peu comme dans mes confessions. Hein. C'est on se marre, on discute entre nous. Et à la fois, du coup... On sent que moi avec mes expériences, mes trucs, c'est pas moi qui vais juger parce que justement je dis plein de choses ouvertement, donc tu peux tout me raconter. Et ce que je ressens en fait chez certaines personnes, c'est cette peur et c'est ce sentiment de honte parce que en plus j'ai personne à qui en parler dans mon entourage proche et je pense que c'est ça qui est plus dur en fait, plus que l'acte sexuel ou que la rencontre ou que la relation tarifée, c'est le fait de pas pouvoir en parler à personne.
C'est ça. Tu sais, la plupart des personnes que je reçois en consultation, et j'imagine que toi aussi, au-delà de parler des relations tarifées, c'est des personnes qui... Enfin, on vit dans des grandes villes, on est très connectés, mais on est extrêmement seuls. Mmh. Parce qu'il y a le poids du jugement, de la morale, des gens qui, effectivement... les gens pensent donner des conseils, ils donnent des avis, tu vois. Et donc, c'est sûr d'avoir un espace, un safe space, comme disent les Anglais... où tu peux te confesser littéralement sans mauvais jeu de mots avec ton podcast et tu peux parler de ce genre de choses et sans tomber dans le stigmate, que ce soit des travailleurs ou travailleuses du sexe ou de la personne qui fait appel à ces prestations, c'est rassurant aussi.
Tu disais que tu avais aussi des côtés négatifs de ce pan-là. Tu veux bien en parler un peu ?
Oui, bah c'est ce que j'ai commencé à te dire. Des personnes qui se sont retrouvées sur certains sites, du revenge porn, notamment.
D'accord.
Qui sont...
Ah, donc qui ont été victimes, enfin qui ont été travailleuses du sexe malgré elles, en fait.
Qui ont été victimes du revenge porn.
D'accord.
Des personnes...
On ne peut pas dire d'ailleurs... Excuse-moi. Non, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas dire d'ailleurs qu'elles ont été travailleuses du sexe malgré elles, parce qu'en plus, elles n'ont même pas été payées. Enfin,
ouais, c'est juste... Le consentement, il est absent.
C'est de l'abus total, quoi.
Le consentement, il est absent. Mais bon, vu que c'est un sujet compliqué, je pense que les auditeurs et les auditrices nous pardonneront nos maladresses.
Peut-être qu'on devrait peut-être expliquer, si tu veux bien, le revenge porn pour tous ceux qui ne connaissent pas, peut-être.
Ouais, bien sûr. Tu veux le faire?
Je t'ouvrais la porte. Mais...
Ah d'accord. Bah, écoute, je rentre dans ta porte. Le revenge porn, en fait, ce sont des vidéos caractère pornographique qui ont été prises... Attention avec ton plumeau.
Qui ont été prises... Je fais exprès pour t'embêter.
Qui ont été prises, qui ont été tournées à l'insu des personnes, des victimes. Donc en fait, on est sur une absence de consentement totale. Et donc, ces vidéos sont prises dans un moment d'amour, dans un moment d'intimité. Et elles se retrouvent,
ou de viol.
Et elles se retrouvent sur Internet moyennant de l'argent, moyennant une manipulation mentale, enfin, moyennant des violences, quoi. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle du revenge porn, parce que c'est du porno qui a pour but de se venger d'un acte. Et donc, j'ai des personnes qui ont été victimes de ça. Qui ont été victimes de revenge porn. J'ai des personnes pour qui l'imaginaire érotique s'est vu totalement écrasé par le porno. J'ai des personnes qui, très jeunes, ont été hypersexualisées, sans parler d'Instagram ou quoi, mais par des regards d'adultes, par des hommes qui leur ont proposé des relations tarifées. Parce qu'il y a les escortes aussi. Mmh. Et en fait, toutes ces choses-là, en fait, et très souvent dans la société patriarcale dans laquelle on est, c'est la femme qui est victime, qui est très souvent l'objet de désir, mais l'objet tout court. Et donc, en fait, c'est des personnes pour qui l'identité, ça les a juste détruits, en fait. Et en fait, quand ils viennent me voir, c'est comment...
Et pourquoi ça les a détruits ?
Bah, parce que on est sur de la violence.
Oui, parce que ces personnes-là n'ont pas choisi...
Voilà.
Du coup, quelque part, on ne leur accorde pas de valeur parce que ce n'est pas elles qui ont accordé leur propre valeur.
C'est ça, les deux piliers d'une sexualité épanouie, c'est le plaisir et le consentement. Bah, il n'y avait ni le plaisir ni le consentement. Mm. Donc quand tu grandis, quand ça t'arrive, peu importe quand ça t'arrive, en fait, tu as cette vision-là de la sexualité, mais en plus de ça, de toi, parce qu'on touche à ton intimité.
Est-ce que chez tes patienteux, je fais un peu exprès d'essayer de mettre de l'inclusivité un peu dans tout ça parce que j'ai pas envie de dire que c'est que les femmes qui sont victimes. Et,
non, j'ai des hommes aussi. Hein.
Voilà, donc merci de me le confirmer. Est-ce que du coup, chez tes patienteux, est-ce que dans les conséquences, ça mène à des choses telles que eux-mêmes ou elles-mêmes s'objectifient et du coup... se conforte un peu dans cette nouvelle position dans laquelle on les a mises malgré elles.
Ouais. T'as plusieurs... Alors, je suis pas du tout une experte des traumas. Par contre, j'ai certaines connaissances. Et t'as plusieurs personnes qui vont réagir comme elles peuvent à leur traumatisme, homme ou femme. Et il peut y avoir soit effectivement... en fait, la dissociation, elle a tellement été forte lors de ce qui s'est passé qu'en fait, les personnes vont rester dans cette dissociation. Et donc, en fait, vont pousser le caractère sexué de leur corps au max. C'était quoi ta question, pardon ? Désolée, je suis en train de penser à des patients, c'est pour ça que ça m'a un peu soufflé.
C'était bien parti. On était dedans. Est-ce que le fait d'avoir subi des violences sexuelles ou d'avoir été mise un peu dans cette position d'objet, donc de cette fausse croyance que cette personne était comme une pute, tu vois, pour dire les mots, on va dire les mots, hein, alors que pourtant, c'est pas son choix, elle a pas pris, enfin, elle est peut-être même pas payée, elle a pas, enfin, elle s'est dit, oui, peut-être que je suis fait que pour ça, alors que peut-être pas. Est-ce que du coup, derrière, ça a créé... quelles conséquences ça a pu avoir derrière sur elle ?
Donc effectivement, il y en a plusieurs. Il y a la dissociation, merci pour avoir répété, il y a la dissociation dont je te parlais.
De rien.
Il y a du vaginisme pour les personnes ayant un vagin.
Faut que t'expliques le vaginisme, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas.
Le vaginisme, en fait, c'est une contraction non volontaire du périnée. Il y a du vaginisme primaire et du vaginisme secondaire.
C'est fou, ça. Hein. Ouais. Ça, c'est fou, le corps.
J'ai beaucoup de patientes. Le vaginisme primaire, c'est, depuis le début, il y a l'impossibilité de pénétrer, que ce soit avec un stylo, avec un tampon, avec un doigt. Et le vaginisme secondaire, où il y a pu y avoir pénétration par un objet ou par un pénis, mais qui, par le soulèvement d'un traumatisme qui va arriver à des moments, malheureusement, qu'on ne maîtrise pas, va entraîner un vaginisme. Donc, par exemple, il y a des femmes qui ont été victimes de viol, qui ont totalement occulté de façon inconsciente cet épisode-là, et qui va revenir lors de l'accouchement, et qui vont développer à la suite de l'accouchement un vaginisme. Voilà. Il y a beaucoup de conséquences aussi, et je prévois d'écrire un livre dans quelques années là-dessus, de liens entre la nourriture et la sexualité. Beaucoup de TCA, donc de troubles de comportement alimentaire, peuvent être le symptôme, bien que ce sont des symptômes, pas des maladies en tant que telles, de violence sexuelle, de dissociation, de la volonté de cacher son corps, homme comme femme. Et puis chez certains hommes que j'accompagne, qui se sont retrouvés dans cette horrible position également, aucune érection.
Et dans le comportement?
Des fuites, des comportements de fuite.
C'est-à-dire?
Les hommes?
Hommes et femmes.
Bah, fuir le rapport sexuel.
D'accord, ok.
Donc après, c'est, en fait, encore
y,
une fois...
Il n'y a, c'est, y a pas eu le cas inverse aussi de...
Si.
Ok.
Comme je te disais tout à l'heure, en fait, les traumatismes, c'est tellement compliqué. En plus de ça, je ne suis pas psychiatre, donc je me base sur les cours que j'ai eus à ce sujet, qui ont été donnés par des psychiatres, mais sur ce que j'ai vu, mais en aucun cas, ça n'a de valeur d'évangile, et je tiens vraiment à le dire, parce que c'est des choses... Chaque personne...
C'est fragile comme sujet. Ouais.
C'est très fragile, et c'est pour ça que je mets un gros trigger warning là-dessus, en parlant exclusivement en mon nom et en mon expérience. Chaque personne qui a vécu un traumatisme va le vivre, l'intérioriser, le sortir à sa façon. Et en fait, chaque personne peut vivre ce genre de choses. Alors tu vois, moi je vois qu'il y a des pistes, quand je vois qu'il y a eu des TCA, je sens qu'il y a eu quelque chose. Quand il y a des mots qui sont très forts associés à la sexualité, comme le dégoût, c'est pareil, enfin, il y a quelque chose qui a dû se passer, mais c'est des bribes, et on remplacera jamais le métier d'un psychiatre ou d'un psychothérapeute là-dessus. De toute façon, je travaille avec eux généralement, parce que quand on est sur du trauma très lourd, en fait, la sexualité, c'est que le symptôme. On mettra beaucoup de trigger warning dans cet épisode.
Oui, bien sûr, clairement. mais je me dis quelque part, est-ce que du coup, être travailleuse du sexe, est-ce que c'est pas hyper empouvoirant, justement, hors de ces traumatismes? C'est un peu d'une manière de dire, bah voilà, je prends. Enfin, je pense notamment par exemple à Virginie Despentes.
Oui.
Je sais pas si t'es un peu familière avec son travail.
Un tout petit peu, ouais. J'ai lu King Kong Theory, mais il y a longtemps.
ouais, bah grosso modo, Virginie Despentes, voilà, c'est une nana qui a fait pas mal de choses dans sa vie, notamment bah, quand elle était un peu ado ou jeune adulte, elle avait pas trop de sous.
Ouais.
Et puis elle s'est faite. Elle faisait du stop. En faisant du stop, elle s'est faite violer.
Ouais.
Et au fur et à mesure, en fait, elle s'est dit, mais en fait, je vais prendre pouvoir de mon propre corps, et si je devenais escorte. Et en fait, c'est en devenant escorte qu'elle est devenue beaucoup plus féminine dans ces temps-là, parce qu'avant, okay, c'était une jeune punk. et en fait, elle s'était rendue compte qu'en devenant prostituée, bah, elle reprenait complètement pouvoir de son propre corps. Et c'était aussi super cool pour elle de se dire, bah, en fait... ouais, là je décide d'être féminine, mais parce que je le veux, et parce que du coup, bah, là je suis payée pour être féminine. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose aussi je suis pas en train de dire oui, soyons toutes des prostituées. Enfin, voilà, je suis pas en train de faire un manifeste, pas du tout, hein, c'est pas l'idée. Mais j'essaye juste de remettre un peu de neutre en fait dans ces avis, où je trouve que de manière générale, on est quand même. On a des arrêtés très polarisants sur le travail du sexe. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi.
C'est sûr. Bah, en fait, voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est effectivement, faut pas tomber dans le misérabilisme.
Ah, tout à fait. Voilà, c'était ça le mot. Ouais.
C'est par rapport, effectivement, aux travailleurs et aux travailleuses du sexe. Encore une fois, si c'est quelque chose qui a été consenti, pourquoi pas après... Ce que Virginie Despentes a fait à la suite de son viol, c'est, il me semble, du coup, je comprends bien, c'est en fait le fait de reprendre le pouvoir sur son corps. Après, c'est vrai que moi, je m'en vais de faire une analyse comme ça, mais tu vois, je sais pas. Est-ce qu'on était encore dans une forme de dissociation ou pas? Je sais pas. Après, il y a d'autres moyens, hein, effectivement, de reprendre le pouvoir sur son corps. Il y a le fait de le toucher. Ouais,
oui, on n'est pas en train de dire que forcément tu te fais violer, deviens pute et ça va être super. On n'est pas du tout en train de dire ça. Mais, je trouve ça intéressant, l'exemple de Virginie Despentes, dans le sens où elle, après, elle en a fait sa vie. Hein. Enfin, voilà, Virginie Despentes, elle a sorti un film qui s'appelle Baise-moi, où clairement c'est une autobiographie où elle parle de ça. Tous ses livres, quand même, sont plutôt marqués au fer rouge.
Bien sûr.
Sous plein d'empreintes sur l'aspect du féminisme et de... Donc voilà, c'est un exemple.
Ah, mais tu sais qu'en sexologie, on dit que les femmes qui connaissent le mieux les hommes, ce sont les prostituées. Hein.
Ah bah voilà. Et pourquoi, du coup, si on creuse un peu
Non, mais c'est ce qu'on nous avait appris, moi, en formation à l'Institut, parce que...
Elles passent beaucoup de temps avec eux, déjà.
Oui, en fait, elles connaissent leurs faiblesses, elles savent, sauf qu'on est sur... Alors, je suis désolée, mais vu que je consulte à Boulogne, moi, j'ai l'image du bois de Boulogne qui n'est pas du tout représentatif, mais elles connaissent leurs faiblesses, elles savent comment ils sont, elles savent ce que ça veut dire d'eux, elles... Enfin, c'est pas anodin de faire l'amour. Et c'est ce que je dis toujours en consultation, même si on parle de sexualité aujourd'hui très librement, ça reste quand même un acte extrêmement intime. C'est vraiment un cadeau qu'on fait de soi à soi.
C'est un échange, ouais.
C'est un échange, c'est une rencontre des corps, c'est une rencontre des âmes. Et comme tu le disais tout à l'heure, pour certaines personnes, il y a une vertu thérapeutique parce qu'elles se sentent extrêmement seules. Et en fait, le contact, on a besoin du toucher. Bref, digression numéro 423. Et donc du coup oui, les prostituées pour terminer effectivement sont les travailleurs et travailleuses du sexe, parce qu'il y a aussi des hommes. En l'occurrence, moi, lorsque j'avais vu la présentation du Stras en santé sexuelle, c'était un homme qui était venu le présenter. Sont les personnes qui connaissent extrêmement bien les différents sexes et leur fragilité.
Et pour conclure, qu'est-ce que t'en penses du fait que ce soit une relation tarifée, pour faire une petite boucle avec sexualité et argent?
Bah écoute, moi je trouve que tant que la personne qui offre le service est consentante et ne le fait pas sous la contrainte, mais tout type de contrainte, c'est-à-dire tu fais pas ça pour gagner de l'argent. Moi, quand j'étais en école de commerce, il y avait... Parce que j'ai fait une école de commerce avant d'être sexologue. Bref, longue histoire. Il y avait des nanas de mon âge qui, en fait, étaient escortes. Donc, en fait, elles, tu les voyais avec des sacs, des trucs...
Pour payer leurs études.
Ouais, pour payer leurs études, ouais. Et là-dedans, je me demande, et je me suis toujours demandé, quelle est la part du consentement dedans, tu vois? C'est pas un vrai consentement.
Bah, pourquoi c'est pas un vrai consentement?
Parce que si elles avaient eu de l'argent, elles ne l'auraient pas fait.
Ouais, mais bon, si t'as de l'argent, tu vas pas forcément bosser à McDo. Mais n'empêche, c'est ton consentement d'aller postuler à McDo ou d'aller sur un site pour devenir escorte.
Ouais, bah tu vois, c'est là où il faut que je pousse encore ma réflexion, parce que je sais pas si c'est mes propres projections que je mets dedans. Tu vois, c'est là où...
Ouais.
Tu vois, c'est là où moi, j'atteins ma limite en tant que femme, en tant que sexologue, parce que j'ai pas poussé ma réflexion à ce point-là. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, qui c'est qui...
Bah, pour moi, t'as toujours le choix. Elle avait le choix d'aller à un job, d'être serveuse dans un resto ou de faire escorte.
Ouais.
Et après, là, c'est la valeur que tu mets aussi à ta propre intégrité. J'ai vu j'ai vu un truc sur TikTok, et j'avais adoré en vrai. C'était une nana de OnlyFans justement qui disait moi, vous savez quoi, du jour au lendemain, j'ai gagné 10 000 par mois. Et en fait, je me suis dit qu'en fait, mon intégrité, j'en avais rien à foutre. Vous savez quoi, les gars, vous pouvez me juger tant que vous voulez, mais en attendant, moi, je me fais 10K par mois, j'ai 18 ans, et qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème? Et puis après, je changerai de métier et tout va bien. Et quelque part, elle a trop raison, parce que...
Non, mais carrément.
Elle allait au bout de sa démarche, elle assume, et je pense que c'est ça le plus important. C'est juste, est-ce que toi, tu te sens bien? Est-ce que tu dors sur tes deux oreilles? Est-ce que tu fais? Si la réponse, c'est oui.
Ah, mais bien sûr.
Personne ne te juge, quoi. Enfin, fais ce que tu veux.
Ah non, mais c'est ça, mais c'est pour ça que, pour le coup, en l'occurrence, la vidéo TikTok, je l'ai pas vue, mais...
Si je retombe dessus, je te l'enverrai, elle était rigolote.
Avec plaisir, tu vois. Mais c'est pour ça, là où j'ai besoin, moi, de maturer, mûrir.
De réfléchionner, pour continuer dans les mots chelous.
C'est là où moi, j'ai besoin, effectivement, de poursuivre ma réflexion. Parce que, encore une fois, moi je crois profondément en maison close. Je trouve ça dommage qu'elles aient fermé, parce que la professionnelle en sexologie que je suis ne peut pas s'empêcher au suivi médical de ces femmes-là et de ces hommes-là, mais plus les femmes. Ouais, tu vois, elles clairement. Étaient suivies, il y avait un safe space. S'il y avait des pratiques qui n'avaient pas été abordées et qui se passent durant l'acte, elles avaient les moyens de se défendre. Enfin, tu vois, il y a toute cette dimension. Mais j'avoue, hein, je dois encore réfléchir sur cette question.
Ouais. Non, mais c'est intéressant en tout cas. Et ça ramène un peu cette idée de tiens, bah, tout d'un coup, on me donne de la valeur. Et en même temps, c'est aussi un peu démesuré parce que parfois, tu es là, mais genre, pourquoi on me donne autant de sous juste parce que je suis une femme et juste parce que j'ai un corps de femme?
Bah, c'est ça, tu vois. Moi, en tant que féministe, c'est vraiment. En fait, c'est-à-dire que si les hommes le faisaient aussi, je pense que ça aiderait le débat. Tu vois, il y a vraiment une objectivation des corps, du corps de la femme en particulier. Tu vois, si les hommes le faisaient aussi, je pense qu'il y aurait moins de débat sur cette question-là. Mais pourquoi ça touche que les femmes? Tu vois, c'est ça, moi, qui me... C'est encore... Tu vois, c'est partie des réflexions que j'ai. Et c'est pour ça que j'étais très transparente avec toi en disant que je suis pas au bout de ma réflexion parce que j'ai pas d'avis tranché. Mais, enfin, faut que j'arrive à dissocier...
Il y a des hommes très du sexe, mais c'est sûr que c'est rare encore en
proportion. Bah, c'est ça, tu vois. Donc, en fait, ça reste des femmes.
On en revient au sexe, pouvoir et argent qui définissent la masculinité.
Voilà, c'est ça. On en revient à ce fameux triptyque de la virilité, sexe, pouvoir, argent. Mais ouais, tu vois, c'est pour ça. Je suis pas sereine sur mes appuis parce que je me dis, ça concerne mine de rien que les femmes. Et c'est pour ça que mon regard de militante, de féministe, il y a un truc qui, tu vois... C'est les hommes qui vont payer des relations tarifées avec des femmes.
Ouais, mais pour moi, l'ennemi, là, il est pas. C'est pas le travail du sexe, c'est le patriarcat.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais je veux dire, moi, c'est pour ça que je te dis, je serais beaucoup plus. Tu vois, par exemple, un truc tout con, mais quand tu regardes historiquement, et ça, je me souviens quand j'enseignais sur l'histoire des femmes, en fait, les Grecs, ils avaient divisé les femmes en 4 catégories. T'avais des malades. Et après, on nous a fait chier avec Aristote au bac. Bref. tu avais les épouses qui étaient là pour reproduire les citoyens grecs.
Je sens que ça va me plaire ce que tu vas me dire. Ouais. J'attends.
Tu avais donc les épouses. Tu avais l'étaïre. Donc, c'était une femme de lettres, une forme d'escorte plus intelligente.
La geisha.
Très cultivée, voilà, mais sans rapport sexuel.
D'accord.
Tu avais également les prostituées, et il m'en manque une. Bon, peu importe. Mais en tout cas, tu vois, ils avaient catégorisé les femmes...
Les esclaves
Oui, certes, facilement. Ils avaient catégorisé les femmes en fonction de leur fonction dans la société, tu vois. Donc, il y avait vraiment une division très sexuée, très sexuelle de leur rôle. Ouais, tu avais l'épouse qui servait de mère. Et en fait, tu vois, ce qui est très drôle chez les Grecs, c'est qu'à partir du moment où il y avait eu deux enfants, dont deux garçons... les femmes épouses grecques pouvaient totalement se décharger de la charge sexuelle. Donc à partir du moment où il y avait des citoyens grecs qui étaient arrivés, voilà, bref. Donc ouais, c'est ça, t'avais l'épouse, la prostituée, l'étaïre, donc cette femme de lettres, et il m'en manque une. Donc tu vois, ça a toujours été les femmes, quoi. C'est toujours les femmes qui ont eu plusieurs rôles. Comme
après, les Grecs, c'était particulier, parce qu'en plus, ils étaient homosexuels la plupart. Enfin, ils avaient peur de... Oui. Ils avaient peur du vagin.
Ouais, c'est Aristote qui dit que l'utérus est un puits sans fond.
Exactement, c'est ça. Et ils le voyaient comme l'antre des enfers. Non. J'avais vu des illustrations comme qui étaient commentées, et c'était vraiment écrit l'antre... Ça s'appelle comme ça, le vagin, quoi, l'antre des enfers. Et que c'était beaucoup plus rassurant d'aller s'enculer entre mecs.
Au moins, ils étaient moins casse-couilles à l'époque, peut-être, là-dessus. Par rapport à l'homosexualité.
Ah bah non, bah ça par contre, oui. Alors ça par contre, voilà, il y a du bon et du mauvais partout.
Ouais.
Voilà, au moins...
Mais tu vois, bon, après, tu vois, sous les rois de France, t'avais la courtisane, la reine, l'amante, enfin, tu vois, il y a toujours eu cette espèce de classification des femmes en fonction de leur rapport à la sexualité qui, moi, me gêne. Et je pense que c'est peut-être ce qui me gêne encore aujourd'hui, mais j'ai peut-être un travail de déconstruction à faire aussi.
Bah... Dans le sens où là, comme tu le décris, elles ne l'ont pas choisi, elles le subissent. Enfin, en fait, comment déterminer chez les Grecs ou quoi que ce soit, enfin, comment... enfin, ça, c'est une bonne question d'ailleurs.
Mais je ne sais pas. Il faudra demander à un expert sur la civilisation grecque.
Moi, ce qui me plaît avec cette idée que demain, si tu es très de sexe, tu l'es, bah, c'est toi qui choisis dans quelle catégorie tu te mets.
Ouais.
Ouais, mais et tu comme vois, un mec aussi peut choisir, bah, tiens.
Est-ce que si on reprend l'exemple de ma camarade de classe, enfin pas de classe, mais d'école, qui était escorte, est-ce que c'est un choix qui est véritablement libre et consenti?
Bah, si elle le fait, si c'est, bah, il y a quand même plein d'autres métiers qu'elle peut faire actuellement.
Oui, mais c'était plus facile. c'est mais plus c'est facile
pas que c'est plus facile que c'est
plus...
pas consenti. Personne lui a mis un couteau sous... Enfin, c'est pas comme non, si elle s'est fait kidnapper, voler son passeport, chose qui existe, et qu'on lui a dit, bah maintenant tu vas faire ça et tu me rembourses autant.
Non, mais par exemple, tu peux gagner plus d'argent dans un laps de temps plus court.
Ouais, mais c'est comme il y a des gens, ils se mettent à la bourse parce que c'est plus facile. Enfin, tu vois, ils se mettent dans la finance. Je prends un exemple typique, mais désolé. Si...
Vas-y.
Mais il y a des gens qui font école de commerce, qui vont dire qu'ils vont faire un bac plus 5, qu'ils vont faire une telle école, et que derrière, parce que même s'ils n'aiment pas trop leur job, bah, ils vont être bien payés. Donc c'est, on pourrait aussi le comparer de cette manière-là.
T'as totalement raison, et moi, il faut que je te dise, je mature tout ça, quoi.
Oui, non, mais je te dis pas ça pour. Mais c'est justement pour essayer de.
Ah non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est pas un
sujet. Approfondir le débat, quoi.
J'en parle jamais.
Ouais, bah non, mais c'est cool de parler de ça. C'est,
parce
c'est,
que quand, quand effectivement tu parles de travailleurs ou travailleuses du sexe, tu as des discours abolitionnistes ou d'autres discours très extrêmes dans les milieux féministes que je fréquente pour certains. Et en fait, avec notre époque, on perd l'art de la nuance.
Ouais.
Et je trouve ça hyper intéressant ton regard parce que, en fait, et même de toute façon, je trouve ça hyper intéressant la nuance parce qu'effectivement, rien n'est blanc, rien n'est noir, quoi.
Ouais, c'est ça le mot de la fin.
Cultivons l'art de la nuance.
Cultivons l'art de la nuance. Et parlons-nous, avons-nous jugé, peut-être. Ça peut être cool.
Ouais, oui. Vraiment. Ouais. Ouais, vraiment. J'espère que je ne l'ai pas trop fait. Je m'en excuse si je l'ai fait au cours de ce podcast. Mais c'était pas dans mes baskets. Enfin, c'est pas mes
non, mais j'espère t'avoir pas mis ça mal à l'aise.
D'ailleurs. Non, mais c'est hyper intéressant. Comme je te dis, je peux jamais. Enfin, c'est compliqué d'aborder ce genre de sujet à une époque où on aime bien être très, très tranché.
Puis en cabinet, en plus, t'es pas là pour ça.
Je suis pas là pour parler de prostitution et travailleurs du sexe.
Non, et puis en plus de ça, les gens qui viennent te voir, ils viennent pour des solutions. Ils viennent pas pour en débattre avec toi. Donc c'est vrai que toi aussi, ça te donne l'occasion de vraiment discuter à bâton rompu.
Bah, c'est ça. Quand les gens viennent me voir en consultation, je leur sers de miroir. Tu vois, je leur renvoie leurs propres interrogations et afin que eux puissent trouver les solutions. Mais, en tout cas, merci beaucoup, Colette.
Bah, merci à toi, c'était très chouette.
Oui.
C'était riche, très intéressant.
Riche, et encore une fois, je m'excuse si jamais j'ai heurté des sensibilités, je travaille dessus.
Non, je pense pas que tu aies heurté.
J'espère avoir fait preuve d'humilité sur cette question parce que je ne la maîtrise pas de toute façon.
Mais non, je pense qu'on a été toutes les deux très sincères. C'est un podcast d'interrogation. C'est un épisode où on s'est interrogées toutes les deux et on n'a pas toutes les réponses.
Non, voilà. Mais il faut savoir le reconnaître.
Bah, tout à fait.
Peut-être prochain épisode avec un ou une travailleuse du sexe.
Oui, j'aimerais beaucoup.
Ouais.
Carrément. Ouais.
Ouais, avec le strass, ça serait fou.
Ce serait très bien, ce serait très bien. Et en plus, on pourrait parler un peu de légalement, parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces dernières années qui ont fait que les travailleuses du sexe ont encore moins de droits qu'avant. Voilà, c'est tout un... Ouais, beaucoup de sujets à aborder.
Bah, j'écouterai avec plaisir.
Bah, carrément, avec plaisir. Merci beaucoup, Margot. Merci les cocos. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez donner votre avis, vous pouvez me laisser un message vocal sur Spotify ou laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Moi, j'adore vous lire, j'adore vous entendre, donc n'hésitez pas. Si vous voulez aller plus loin, je fais des histoires immersives, olé olé, pour apprendre à s'explorer ou à partager des petits moments coquins avec son, sa ou ses partenaires. Ça se passe sur Patreon, les liens sont dans la description. Et l'accompagnement Better Call Coco dont je vous ai parlé aussi, je vous mets le lien. Je vous dis à très 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 bientôt, je vous embrasse très fort.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain.
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.